C'est l'anniversaire du décès, au tout début de ce siècle, de Marie Guérin, une jeune carmélite de 35 ans, cousine et novice de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont c'est le centenaire, comme vous savez, du décès cette année, elle. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc Marie Guérin, qui était la cousine de Thérèse Martin, était la fille d'un pharmacien. Et c'est le 24 février 1868 qu'elle est née. Et ou plutôt le 22 août 1870, pardon. C'est sa sœur qui est née 2 ans plus tôt. Et alors, elle a été baptisée Marie-Louise Hélène. On l'appelle Marie Guérin, quoi. Et c'est son oncle, le père de Thérèse Martin, qui a été son parrain. Monsieur Martin aimera toujours cette petite brunette qui était Marie Guérin. Il va l'appeler la grecque à cause de ses grands yeux de jais. Elle avait des yeux très expressifs et très profonds. Et elle sera bientôt la compagne de jeu de sa fille Thérèse. À vrai dire, pendant toute la période de leur enfance, quoi, Thérèse a joué auprès de sa cousine un rôle, si on peut dire, d'ange gardien, parce que la petite Marie Guérin souffrait de maux de tête assez fréquents, ça la tenaillait. Hein. Elle avait aussi des fluxions qui défiguraient sa figure. Et elle avait aussi des sautes d'humeur, cette petite Marie Guérin. Elle avait ses petits caprices, parce que son père était assez riche, finalement. Et ça n'allait pas sans problème. Et Thérèse Martin, la future Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse Enfant Jésus, s'efforçait d'apaiser ses souffrances. D'ailleurs, au procès de béatification de Thérèse de l'Enfant Jésus, sa sœur Léonie, puis l'ancienne servante de la pharmacie de M. Guérin, Marceline, ont témoigné combien elle s'est ingéniée à distraire, à entourer cette jeune malade jusqu'à lui faire oublier ses infirmités. Mais ses infirmités, il ne faut pas exagérer quand même. Hein? Et Marie Guérin n'avait pas, d'ailleurs, que, on pourrait dire, des phases de langueur. Elle était d'une intelligence aiguisée. Hein? Elle s'était placée, en dépit d'absence assez fréquente, assez court, elle s'était placée dans les premiers rangs de sa classe. Elle était intelligente et elle travaillait vraiment. Et quand elle était en meilleure santé, bien, elle aimait bien jouer avec toutes les autres, elle plaisantait volontiers. Elle courait même, sans souci des obstacles, ce qui lui a valu à quelquefois des accidents. Et Madame Guérin, sa mère, imitant ce qu'avait fait jadis Madame Martin, la mère de Thérèse, ce qu'elle avait fait pour les aînés, parce que vous savez que M. et Mme Martin n'ont pas eu que Thérèse, ils ont eu d'autres filles qui sont d'ailleurs entrées au couvent, au même monastère que Thérèse, sauf une. Et alors, donc, Mme Guérin a tenu, comme Mme Martin, à préparer elle-même sa fille à la première communion. Elle a composé à son usage des petites prières simples. C'est pas bête, ça, des petites prières concrètes pour sa fille. Elle l'entourait donc, elle l'accompagnait pour sa première communion. Si tous les parents faisaient ça, peut-être que ça aiderait mieux un enfant. Hein? Et puis, les prières étaient inspirées, paraît-il, d'événements liturgiques ou des incidents de la journée, dans lesquels Madame Guérin passait en revue les défauts à élaguer, puis les vertus à acquérir aussi. Alors, ces prières-là s'achevaient en résolution puis en supplication vers Dieu. Et l'accent est mis sur l'humilité du cœur, la sanctification des devoirs d'État. Hein? On en a gardé ces prières. Et puis, il fallait aussi faire attention à cette petite qui était de famille riche, d'éviter d'avoir une espèce de mépris à l'égard des domestiques. Et ça, c'était impitoyablement réprimé. D'ailleurs, voici un échantillon de cette littérature maternelle. Ce que la mère écrivait pour sa fille. Des prières. « Ô mon Jésus, hier, je vous avais promis d'être bien sage, et voilà qu'il m'est arrivé de répondre mal à la bonne, alors que je suis ingrate. J'ai donc oublié que cette pauvre fille n'est pas heureuse comme je le suis. Elle est privée de sa mère et de toutes sortes de joies. Ô mon aimable Jésus, faites que jamais Je ne retombe dans cette faute. Aidez-moi à être polie et douce envers les bonnes. Que je me souvienne qu'elles sont mes égales et qu'un jour, au ciel, elles auront peut-être une place bien plus élevée que la mienne. Pardonnez-moi, Jésus, oubliez mon ingratitude et, pour ma première communion, ornez mon âme des vertus qui vous plaisent, et surtout de l'humilité. C'est bien, hein, cette prière d'une mère pour sa fille à la veille de sa première communion. Dans une famille riche, quoi. Alors, il a été question de retarder, à cause de son étourderie un peu, puis ses maladies, il était question de retarder sa première communion. Mais Marie a fait sa première communion quand même dans la chapelle des Bénédictines le 2 juin, à 10 ans, en 1881. Et cette cérémonie a été préparée à coups de sacrifice. Ça l'a impressionné vivement. Si l'on en juge par ce passage d'une lettre que, du Carmel où elle va rentrer, elle va devenir Sœur Marie de l'Eucharistie, elle adressera plus tard une bonne entrée, elle aussi, au cloître, Marceline, qui va rentrer chez les Bénédictines. « Nul mieux que moi ne peut vous dire qu'en ce jour, le plus beau de ma vie, Jésus m'a appelé à la vie religieuse et nous nous sommes promis tous les deux fidélité. » En grandissant, Marie Guérin va s'initier peu à peu à l'effort. Elle voudra imiter ses cousines, qui sont entrées, les cousines Martin, dans leurs fréquents exercices de piété. Et puis, elle est freinée par exemple par ses parents, qui sont soucieux d'éviter qu'elle se fatigue et qu'elle retombe malade. Ils sont inquiets, en secret aussi, peut-être, de voir s'éveiller en elle des symptômes de vocation. Mais vous verrez, ils vont changer d'avis, hein. Elle n'aura pas la permission, d'ailleurs, de lire, quand elle est enfant, la biographie de Sainte Thérèse d'Avila que Pauline, la sœur de Thérèse Martin, entrée au Carmel en 1882, avait envoyée à la maison des Martins, les Buissonnets. Alors, c'est un tempérament d'artiste, notre petite Marie Martin. Elle a une voix d'une grande limpidité. On dit qu'elle avait une voix avec des vibrations qui ravissaient M. Martin, son oncle. Et ça lui valait, de la part de son père, M. Guérin, le surnom de Petit Rossignol. Elle était pianiste aussi, comme Élisabeth de la Trinité, cette autre carmélite de Dijon, celle-là. On dit que ses doigts pouvaient courir sur le clavier comme avec une agilité de virtuose. Et elle était seule à méconnaître ses talents. Elle était soucieuse de s'effacer. D'ailleurs, elle souffrait d'un certain complexe spirituel, hein. Elle paraissait ne tenir à rien. Une de ses cousines, Céline Maudelonde, auquel elle écrit de temps en temps, lui avait demandé un morceau de musique un jour, qu'elle connaissait très bien. Puis elle s'en est dépouillée sur le champ des feuilles de cette musique, puis il n'en a plus jamais été question. C'est que déjà peut-être, la grâce l'a travaillée en profondeur. Mais c'était une épreuve surtout de scrupule qui va la poursuivre jusqu'à la fin. Celle-là affectée dès son enfance, ça contribuait à la dégoûter du monde et de ses vanités. Mais l'exemple de Thérèse va l'inciter à se détacher d'une façon fantastique et elle sera guérie par Thérèse de l'enfant Jésus, sa cousine. On sait le rôle actif joué par M. Guérin, ce pharmacien, son père, dans la vocation de sa nièce Thérèse. Résolument hostile d'abord à ce départ d'une enfant de 15 ans pour... Je voulais rentrer au cloître, troublé malgré tout par les vertus de cette fillette. L'oncle Martin, qui était tuteur d'ailleurs, s'était finalement incliné. Il ira même jusqu'à revoir et corriger de sa main la lettre de supplique que Thérèse Martin avait adressée, parce qu'elle voulait devenir postulante, elle avait adressée à l'évêque de Bayeux, à son retour d'Italie où elle était allée voir le pape Léon XIII. On connaît l'histoire, je vous l'ai raconté le premier de ce mois. Cette phase de démarche et d'incertitude ne fut pas sans émouvoir Marie Guérin. Elle s'afflige de perdre sa confidente, son amie. Elle a massé toutefois pour endosser sa cause quand même. Auprès de celle qu'elle aime non pas comme une cousine, mais comme une sœur et une vraie sœur, elle s'acquitte d'une mission qui a une portée historique. Elle écrit, « Pauline m'a chargé de te dire qu'elle désirait fortement que tu parles au souverain pontife au sujet de ton entrée au Carmel. S'il ne passe pas auprès de toi, elle voudrait que tu ailles au-devant de lui pour demander la grâce que tu souhaites avec tant d'ardeur, hein, l'encourage à parler à Léon XIII, la petite Thérèse, là. Alors, le lundi 9 avril 1888, Marie Guérin, les yeux humides, embrassait donc sa cousine à la porte de la clôture du cloître des Carmélites de Lisieux. Mais elle était désireuse déjà de la rejoindre un jour dans ce Carmel. La prieure du Carmel, Mère Marie de Gonzague, avait fait preuve, quand on y pense, malgré son mauvais caractère, oui, c'était une religieuse qui avait mauvais caractère, elle avait fait preuve d'une réelle largeur d'esprit en admettant Thérèse comme postulante dès ses 15 ans. Et elle ne se montrera pas moins favorable à l'admission de sa sœur Céline, Martin, puis de sa cousine, Marie Guérin. L'histoire, me semble, lui doit cette justice, et qu'elle n'a pas empêché, qu'elle a même facilité, quitte à en prendre par la suite quelques ombrages, ce rassemblement, somme toute absolument insolite, de 5 membres d'une même famille dans une communauté qui ne pouvait en principe dépasser 21 religieuses, et par autorisation spéciale en comptait à l'époque déjà 27. Alors la prise d'habit de Thérèse Martin, notre Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, le 10 janvier 1889, a impressionné profondément Marie Guérin. Entre la novice et son amie d'enfance, sa cousine, une correspondance va s'échanger, qui débutera par des banalités pour s'achever en un dialogue où va s'affirmer de plus en plus cette maîtrise incomparable de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus dans l'art de gouverner les âmes. Il y a quelque chose d'émouvant qui surgit dans une lettre du 24 avril 1889 à l'occasion de la croix qui afflige M. Martin. Vous savez qu'il était tombé très malade, hein? Le père des sœurs Martin, Carmélite. « C'est incroyable, écrit Thérèse Martin, comme maintenant nos liens se sont resserrés. Il me semble qu'après notre terrible épreuve, nous sommes encore plus sœurs qu'avant. Si tu savais, comme je t'aime, comme je pense à vous tous, oh, cela fait tant de bien quand on souffre, d'avoir des cœurs amis, dont l'écho répond à notre douleur. » Un jour, elle reçoit, Thérèse Martin, un SOS de sa cousine Marie Guérin. Ça va permettre à la sainte de hausser le ton, mais de se révéler déjà la parfaite maîtresse et novice qu'elle sera un jour. Marie, si tu n'es rien, il ne faut pas oublier que Jésus est tout. Aussi, il faut perdre ton petit rien dans son infini tout et ne plus penser qu'à ce tout uniquement aimable. Il ne faut pas désirer non plus voir le fruit de tes efforts. Jésus se plaît à garder pour lui seul ces petits riens qui le consolent. C'est assez radical, mais c'est exprimé dans une perspective christocentrique, c'est l'axe de l'existence d'une carmélite. Mais comment s'y maintenir? Comment y progresser? Et la réponse vient aussitôt qui préfigure les élévations fulgurantes de la lettre du 15 septembre 1896 à Sœur Marie du Sacré-Cœur, où la future Sainte Thérèse d'Enfant Jésus écrit « Pour moi, je ne connais pas d'autre moyen pour arriver à la perfection que l'amour. » Aimer, comme notre cœur est bien fait pour cela. Parfois, je cherche un autre mot pour exprimer l'amour, mais sur la terre d'exil, les paroles sont impuissantes à rendre toutes les vibrations de l'âme. Aussi, il faut s'en tenir à ce mot unique, aimer. À la prise de voile de Sœur Thérèse l'Enfant Jésus, le 24 septembre 1890, que va se dénouer le drame intérieur de Marie Guérin. Tandis que la sainte était étendue sur le sol pour la grande prostration, avez-vous déjà assisté à l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui se donnent complètement à Dieu dans les cloîtres, là? Et d'ailleurs, les ordinations sacerdotales aussi, ces grandes prostrations, c'est très impressionnant. Alors, tandis que la Sainte Thérèse est étendue sur le sol pour la grande prostration, dans le cœur des moniales, à Lisieux, Marie Guérin a senti ses derniers doutes s'évanouir. Et là, on peut dire que Dieu, cette fois, l'attirait invinciblement. Elle serait carmélite. La sœur de Thérèse, Céline, qui n'était pas encore entrée au monastère, a été la première à recevoir cet aveu. Mais Céline se destinait elle-même à devenir carmélite à Lisieux. Elle était retenue seulement dans le monde par la maladie de son père, M. Martin. Alors entre elle et sa cousine Marie Guérin, à la faveur de la vie commune, puis de le fait qu'ils habitaient pas tellement loin l'une de l'autre, mais il y a eu des relations étroites qui se sont créées. Entre-temps, M. Martin est finalement mort le 29 juillet 1894, et jusqu'au bout, les attentions les plus délicates l'y avaient entouré. Il est mort dans le château de la Muse qui appartenait à M. Guérin, les parents de Marie Guérin, où on l'a beaucoup aidé. Le 10 août 1893, avant la mort de M. Guérin, Thérèse en exprimait sa gratitude à Mme Guérin, sa tante. « Je ne puis vous dire, chère tante, le bonheur que j'éprouve en pensant que mon cher petit père est au milieu de vous comblé de tendresse et de soins. Le bon Dieu a fait pour lui la même chose que pour son serviteur Job. Après l'avoir humilié, le comble de ses faveurs. Et c'est par vous que tous ses biens, cette affection, lui sont donnés. » Alors, peu après la mort de son père, Céline se trouve délivrée, en somme, de tous les liens, puis elle entre au cloître. Le vendredi 14 septembre 1894, dans la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix, Marie Guérin, tout en larmes, escorte sa cousine Céline, qu'elle considérait comme sa sœur. Elle l'escorte à la porte du monastère. Dans ses lettres, en attendant de la rejoindre, elle lui raconte par le menu détail les moindres incidents de sa vie. Le 17 mai 1895, elle écrit « Que tu me manques, si tu savais, et que je souffre d'être au château, à la Muse, sans ta douce société. » Et elle relate ses visites à la chambre où est mort son oncle M. Martin, et la consigne qui semble gravée sur les murs, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. » Il faut vous dire que M. Martin avait plus ou moins perdu un peu la raison. Elle écrit dans sa lettre, « J'ai revu aussi les moindres incidents de ces derniers jours, nos conversations ensemble, tandis que nous restions toutes deux près de mon oncle et sa belle figure, que je me représente là encore mieux que partout ailleurs, et dont la vision m'est si présente. Je me rappelle aussi avec un brisement de cœur la douleur que ma Céline que je ne pouvais consoler. Je revois la scène du dernier baiser, et alors, malgré moi, les larmes jaillissent de mes yeux. Ainsi, mon séjour est-il mélangé de tristesse et de joie? Il me semble entendre tous les soirs le bruit devant le perron de la petite voiture où l'on amenait mon bon oncle, et je suis tout étonné quand je me penche par la fenêtre de ne pas l'apercevoir. » Alors, l'heure va venir bientôt où ces lettres vont faire place à des dialogues. Marie va rejoindre au Carmel ses cousines qu'elle aime comme des sœurs. Son entrée est décidée pour le 15 août. C'est évidemment le jour de la fête de l'Assomption, et donc l'entrée de Marie Guérin au Carmel est tout ensoleillée de la grâce de l'Assomption. M. Guérin, son père, pharmacien, ne vit plus que l'honneur qui lui était fait de donner une fille au Seigneur. C'est très beau ce qu'il écrit. Un père chrétien qui donne sa fille. Nous pouvons maintenant mourir, puisque nous laissons, après nous, une lampe ardente qui ne cessera jamais de brûler devant la divine Eucharistie. N'oubliez pas, c'est à la fin du siècle dernier, c'est un style différent d'aujourd'hui, mais ça exprime des sentiments profonds et vrais. Madame Guérin, sa mère, partage la foi de son mari. Elle écrit, « Quelle belle vie sera la tienne, chère Marie !» si tu veux rester obéissante et humble. Je suis bien persuadée que le bon Dieu te veut tout à lui, mais que lui avons-nous fait pour mériter une telle faveur? Rien, absolument rien. C'est lui qui a fait les premières avances, et tout est venu de lui. Qu'il est bon de m'avoir ouvert les yeux en me faisant comprendre la beauté de la vocation religieuse. L'enthousiasme est au même degré, on peut dire, chez Marie Guérin, la postulante. Elle est fière de son titre nouveau de Marie de l'Eucharistie, qui correspond si bien à son attrait pour l'Eucharistie, pour la Sainte Hostie. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'en entrant dans sa petite cellule, elle découvre sur son lit, comme c'est la coutume chez les carmélites, entourée de fleurs, là, il y avait en plus une poésie, la poésie « Vivre d'amour », récemment composée par Thérèse. Alors elle savoure aussi le morceau de circonstance écrit pour elle par Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Alors elle le chante, selon la coutume, devant la communauté, à la récréation du soir. Et la mélodie évoque un air que vous connaissez tous, cet air profane, alors en vogue, « Mignon, connais-tu le pays ?»« Mignon, connais-tu le pays où fleurit l'oranger ?» Alors, mais le thème de fond est emprunté au psaume 115e, « Dirupisti domine vincula mea ». Tu as brisé, Seigneur, mes liens. Et le titre vaut tout un programme. Cantique d'une âme ayant trouvé le lieu de son repos. C'est le titre qu'avait donné Thérèse d'Enfant Jésus. Alors, la première strophe magnifie les liens brisés, le monde quitté pour le cloître, et les faveurs de Dieu qui sanctionnent cet échange. La seconde, jouant sur le nom nouveau que va porter la future religieuse, Marie de l'Eucharistie, ça lui trace la ligne du don total. Et Thérèse d'Enfant Jésus a écrit, « Ô Jésus, en ce jour, tu combles tous mes vœux, je pourrai désormais, près de l'Eucharistie, m'immoler en silence, attendre en paix les cieux, m'exposant aux rayons de la divine hostie, à ce foyer d'amour je me consumerai, et comme un séraphin, Seigneur, je t'aimerai. » Et Marie Guérin apprécie à sa juste valeur sa condition nouvelle de carmélite. Elle écrit qu'il faut venir au Carmel pour savoir ce que c'est qu'aimer véritablement. Se donner à Dieu, c'est, disent les gens du siècle, abandonner ses parents. Mais qu'ils viennent me trouver, ceux qui parlent ainsi, je leur ferai voir que moi, pauvre carmélite, je n'ai pas partagé mon cœur avec la créature. Je l'ai donné à Jésus tout seul, et lui me le rend au centuple pour chérir mes bien-aimés parents. Mère Agnès de Jésus, nouvelle prieure, c'est la sœur de Thérèse, et donc la cousine de Marie Guérin, fait montre, à la fête de la communauté, d'une autorité douce et égale, qui contraste avec les inconstances de l'ancienne prieure, Mère Marie de Gonzague, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui était quand même pas une mauvaise prieure. Et Marie Gonzague continue de régner donc sur les religieuses en formation au noviciat. Sœur Thérèse d'Enfant Jésus lui a été adjointe à titre de doyenne du noviciat. Et Marie Guérin va donc demeurer au contact immédiat de sa cousine. Et avec elle, va s'initier à la récitation de l'office, aux usages de la vie monastique. Et entre-temps, elle aide au réfectoire et à la sacristie. Et plus tard, elle va assumer la fonction de proviseuse, qui comporte certaines responsabilités dans l'approvisionnement du monastère, l'entretien du jardin, les relations avec les sœurs du voile blanc, les sœurs qui ont fait des vœux temporaires. Les récréations, la voix, et c'est merveilleux, rieuse et bout en train, presque même une espèce de petite gamine à ses heures, ce qui aide à détendre les nerfs, à reposer les esprits, hein, dans un climat qui est parfois un peu dur, hein, dans la vie contemplative. Alors Marie était entrée de plein pied dans la vie des carmélites. Le faste du monde, de la richesse, avait glissé sur elle. Et plus que les splendeurs du château de la Muse, elle apprécie les murs dépouillés de sa cellule et elle écrit « La pauvreté a pour moi un attrait spécial. » C'est ce qu'elle écrit à son père. « J'aime à la pratiquer en tout, et le bon Dieu vient me servir lui-même quand je manque de quelque chose. Juste de petits moyens pour me rendre agréable à Jésus. La pensée de devenir sainte ne me quitte pas. » Et c'est dans cet esprit qu'elle évite de demander les objets dont elle manque, qu'elle marque une sorte de prédilection pour le matériel usé ou démodé, qu'elle accueille avec le sourire les changements fréquents de cellules, et partout et en tout, elle veille à ne pas s'installer. Dans le style classique des litanies de l'humilité, là, Marie Guérin s'est composée une prière qui chaque jour l'invite à l'oubli de soi, et c'est ainsi qu'elle est sur le chemin de la sainteté. C'est une émission que je devrais peut-être dédier à ces jeunes filles de 15 ans qui m'ont écrit une carte admirable. Elles ont toutes signé, écrit des petits mots. Et c'est absolument charmant. Félicitations pour votre bonne émission, c'est signé Anne-Marie. Vous consacrez beaucoup de temps à vos émissions, alors bonne chance, Mélissa Gagné. Alors il y a trois Valérie, puis il y a une Marjo, une Julie, une Karine, une... Oh mon Dieu, une Annie, une Ariane, Marie-Hélène, Paya, et puis Amalie, puis etc. Mon Dieu, une Hélène, une Roxane, une Émilie. Et je remercie toutes ces jeunes filles de cet âge qui m'écoutent et qui aiment tellement les émissions que je fais. Ça me touche beaucoup. Et comme je parle d'une jeune fille à peine plus âgée qu'elle, je leur dédie donc cette émission. Revenons donc à... Marie Guérin. Au moment de retourner dans sa maison de campagne, M. Guérin, le père de notre héroïne, reçoit des confidences au sujet de sa fille. Il est très touché, il est capable de les comprendre. Alors au moment donc de gagner sa belle résidence de campagne, son espèce de petit château, il éprouve un pincement de cœur en évoquant celle qui ne verrait plus maintenant comme par le passé courir avec sa cousine Céline dans les grandes allées du château, des grandes allées ombreuses. Et puis, il domine toutefois la première impression et se ressaisit dans la prière. Puis il écrit à sa fille Marie Guérin, entre au cloître, « Dieu a cautérisé la blessure et il l'a guérie. Ce n'est pas du regret. » C'est plutôt un bonheur calme et suave et une sorte d'orgueil qui accompagne ton image toujours présente à mes yeux. J'ai pensé que ton divin époux te promène avec amour dans un parc bien plus beau, bien plus captivant que le nôtre, que chaque jour il te découvre des horizons nouveaux. On voit qu'il a dû lire Jean de la Croix, il a lu les mystiques, on dirait. Il continue en disant « Quand je songe à tout cela, je comprends ta souffrance extrême, la souffrance extrême des parents, qui n'ayant pas la foi voir leurs enfants bien-aimés s'ensevelir dans les cloîtres. Il me semble que leur affection doit s'émousser et même s'éteindre, tandis que la nôtre s'est accrue en devenant plus pure. Elle s'est doublée de reconnaissance pour celui qui a choisi notre enfant. » Alors c'est dans une sorte d'euphorie que Marie Guérin achève son temps de probation. Elle a d'ailleurs été aidée par les événements spirituels qui coupent de temps à autre la monotonie de l'itinéraire ou de l'horaire conventuel. En octobre 95, il y a une retraite prêchée par un prêtre. Le 24 février 1896, donc quelques mois plus tard, sa compagne Céline Dion, sa cousine, qui est devenue sœur Geneviève de la Sainte-Face, a fait profession. Puis le 17 mars suivant, le mois suivant, une même journée réunit les deux cousines au pied de l'autel. Alors le matin, c'est Céline qui prend le voile blanc, et l'après-midi, Marie Guérin, en toilette d'épousée, en habit de noces, quoi. Et c'est très beau à voir, ça. Elle s'avance au bras de son père, le pharmacien M. Guérin, à la porte de clôture. Là, il y a un sermon de circonstance qui est prononcé par le curé de Navarre, près d'Évreux. C'est le directeur spirituel qui a guidé...
Votre générosité l'est aussi. Vite, joignez-vous aux avis de Radio Ville-Marie.
De temps en temps, d'ailleurs, ça va contribuer encore à mettre de l'apaisement dans son âme, parfois un peu troublée. Et donc, elle reçoit l'habit des Carmélites des mains de Mère Agnès de Jésus, la sœur de Thérèse. Ce soir-là, sœur Marie de l'Eucharistie, c'est son nouveau nom, écrit à sa mère, « Depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu l'ombre d'un regret. Je suis toujours dans une joie parfaite. Je me demande souvent comment il se fait que nous puissions nous trouver si heureuses dans une vie de mort continuelle. Malgré tous les plaisirs, entrevus, que je pouvais me procurer dans le monde, j'aime beaucoup mieux, sans hésiter, ma vie de privation et de souffrance. C'est tellement vrai que c'est ce que j'ai expérimenté, c'est tout à fait ça. Ben oui. Je me demande souvent comment il se fait que nous puissions nous trouver si heureuses dans une vie de mort continuelle. C'est exactement ça, elle a donc raison. Et 4 jours après sa prise d'habit, après la prise d'habit de Marie, quoi, le samedi 21 mars 1896, c'est le supériorat de Mère Agnès de Jésus qui arrive à expiration et le chapitre se réunit. Pour pas moins de 7 jours de scrutin, pour une petite communauté comme ça, pour dégager une majorité, alors c'est Mère Marie Gonzague qui est élue, mais elle se sent mal à l'aise devant... elle est ulcérée devant une élection aussi mouvementée, hein? Alors, au lieu de confier à la prière déposée, Mère Agnès, comme la tradition l'y invitait, la charge du noviciat, elle la garde pour elle-même. Mais elle confirme, dans son rôle de sous-maîtresse, Sœur Thérèse d'Enfant Jésus, dont la vertu l'impressionne. Alors, Sainte Thérèse est entrée dans la phase décisive qui va mettre le sceau à sa mission. Le 9 juin précédent, en la fête de la Trinité, elle s'est offerte en victime. Oui, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est comme une offrande magnifique à l'amour miséricordieux. 5 jours après, au cours d'un chemin de croix, il y a comme un trait de feu au cœur qui lui apporte la réponse du ciel. Au début de l'année, elle a remis à sa petite mère, Mère Agnès, les souvenirs qui vont constituer les 8 premiers chapitres de l'histoire d'une âme. Ce livre, ce best-seller qui est lu d'un bout à l'autre de la terre et qui est maintenant restitué dans son style original tel que Thérèse, l'enfant Jésus, l'a écrit. Parce que ça avait été transformé par Mère Agnès. Dans quelques jours, le 3 avril 1896, une crise d'hémoptysie qui sonne pour elle comme un prélude à une vie de l'autre côté. Elle est dans le plein épanouissement de sa grâce, Thérèse d'Enfant Jésus. Alors après sa chère Céline et Sœur Marie de la Trinité, Sœur Marie de l'Eucharistie va lui offrir une occasion suprême, puis providentielle, on pourrait dire, d'inculquer aux âmes sa petite voix, l'enseignement. Non qu'il faille imaginer un enseignement méthodique. Thérèse d'Enfant Jésus, elle procède pas comme ça. La sous-maîtresse, donc, des novices, n'avait à faire ni conférence ni causerie. Elle était considérée comme la grande sœur, qui était toujours accessible, qui répond aux questions qu'on lui pose, qui aide aussi de ses conseils à franchir les premiers obstacles de la vie religieuse, à s'adapter à ses coutumes, à ses travaux. Elle avait une façon si naturelle d'élever le débat et de souligner la portée sanctificatrice, on pourrait dire, des gestes les plus humbles, que sa doctrine passait imperceptiblement à travers une remarque, une explication, un trait aimable, au besoin, un rappel à l'ordre. Pas d'exposé systématique, c'était pas dans sa manière, mais à propos de tout et de rien, elle livrait ses pensées profondes. Puis son exemple faisait le reste aussi, hein. C'était comme un enveloppement, une imprégnation lente, qui touchait et qui marquait pour toujours ces jeunes femmes. Thérèse ne cherchait pas à s'attacher les cœurs, il y avait en elle un mélange de simplicité et d'autorité, puis de familiarité et de grandeur. Les âmes, encore fragiles, se sentaient portées vers elle, hein, comme Marie Guérin, et par certains points, la redoutaient. D'ailleurs, Marie Guérin, sœur Marie de l'Eucharistie, éprouvera à son égard ce complexe d'élan et d'intimidation. Elle écrit « Je ne suis, moi, que votre cousine », c'est ce qu'elle lui disait parfois, bon, taquinait un peu. Et la sainte, Sainte Thérèse, alors la reprenait d'un air un peu affligé en lui disant « Oh, ne dites pas cela, vous êtes ma vraie petite sœur, si vous saviez comme je vous aime. » Elle n'en était que plus vigilante, évidemment, à prévenir et à rectifier chez cette novice Marie Guérin toute erreur d'orientation, hein. On se cabrait bien un peu contre la hauteur de l'idéal que Thérèse assignait à ses disciples, hein? Un peu comme le Christ qui assigne un idéal très élevé, et on s'insurge contre ça, et Jean-Paul II aussi nous le répète, puis on s'insurge encore, hein? On n'aime pas les idéaux. Hein? On argue que c'est impossible d'y atteindre. Mais dans le monastère de Lisieux, chez les Carmélites, on finit toujours par lui donner raison à Thérèse. Il y avait en Marie Guérin un certain fond de légèreté, hein, qui portait Madame Guérin à douter de la persévérance de sa fille dans une vocation aussi austère. Il y avait surtout une âme trop repliée, trop tremblante, trop préoccupée d'elle-même. Puis la complexion maladive, qui développe volontiers, si l'on y prend garde, un penchant à l'extrospection. Et de là, avec aussi, elle avait une propension assez violente aux scrupules, une défiance de soi qui risquait de tourner à ce qu'on appelle la pusillanimité, le suicide des petites affaires. De là aussi un excès de sentimentalité, facile dans un cloître de tourner la sentimentalité, c'est même d'ailleurs facile dans le monde. Je reçois des lettres parfois très sentimentales, de charmantes auditrices. Ce sont de belles lettres, ça me touche beaucoup, mais mon Dieu que c'est sentimental. Dans l'ambiance calfeutrée de ce monastère, son excès de sentimentalité va chercher un exutoire dans des attachements parfois passionnés à telle ou telle supérieure. Mais quand même, Marie Guérin avait une nature très droite, d'une entière bonne volonté et d'une générosité incontestable. Et Thérèse a saisi d'emblée ce complexe psychologique, où c'est la sensibilité qui domine. Alors elle va en jouer à merveille pour la tourner tout entier vers qui? Vers celui-là qui est seul, digne qu'on l'aime sans mesure. Seul capable d'assouvir les désirs brûlants d'un cœur humain. Oui, c'est Jésus. Alors les choses n'allaient pas toujours tout seules chez Marie Guérin, qui n'avait pas atteint à la sereine indifférence de sa sainte cousine. Celle-ci l'orientait alors vers le livre qui avait nourri sa jeunesse, au point qu'elle était capable, imaginez, de le réciter tout entier de mémoire, ses limitations de Jésus-Christ. Et elle lui dit, « Je vous conseille, quand vous aurez des combats contre la charité, de lire ce chapitre de l'imitation, qu'il faut supporter les défauts d'autrui. Alors vous verrez que vos combats tomberont. Il m'a toujours fait beaucoup de bien. Il est très bon et très vrai. » C'est bien de dire ça à sa cousine, pour l'aider. Après une année d'efforts, que va couper heureusement la retraite de la communauté prêchée en octobre 96, là, qui est un prémontré qui va prêcher ça, et qui va être appelé le parrain de l'histoire d'une âme, bien, notre novice a été admise à faire profession le jeudi 25 mars 1897. La prise de voile, précédée d'un sermon de son directeur, qu'elle avait dans le monde, a eu lieu le 2 juin 1897. Alors, vous voyez, c'est l'année de la mort de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Il y avait 16 ans, jour pour jour, quand la chapelle des Bénédictines, Marie Guérin avait reçu Jésus pour la première fois. Alors, sa sainte maîtresse lui remit, au cours de la fête, une image de l'Enfant Dieu qu'elle avait gardée assez longtemps dans son bréviaire, et elle portait au verso une dédicace typique de l'époque, et s'accompagnait d'un billet qui rapproche symboliquement la toilette blanche de la communiante et l'habit de la carmélite. Et ça s'achevait par ces mots. Ce n'est plus le gracieux voile aux longs plis neigeux qui doit envelopper Marie de l'Eucharistie. C'est un sombre voile qui rappelle à l'épouse de Jésus qu'elle est exilée, que son époux n'est point un époux qui doit la conduire dans les fêtes, mais sur la montagne du calvaire. Et désormais, Marie ne doit plus rien regarder ici-bas, rien que le Dieu miséricordieux, le Dieu de l'Eucharistie. Elle est exigeante, hein? Mais sous la plume de Thérèse, c'est presque un testament, hein? Puisqu'elle se prépare à la mort. Et la Providence, qui semble avoir tout disposé pour que rien ne se perde des paroles et des exemples de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, a constitué, saviez-vous ça, Sœur Marie Guérin, ma Sœur Marie de l'Eucharistie, témoin autorisé de la mort lente de la petite reine. C'est elle qui va prendre tout des tas de notes. Et dès juin 1896, eh bien, elle prend note de tas de détails extraordinaires. Et trois ou quatre jours après la prise de voile de Marie, il y a une brève missive qui fait part de l'inquiétude de la communauté. C'est écrit « Mourir sera mon bonheur ». C'est ce qu'elle dit, Thérèse Enfant Jésus. « Vivre le sera encore, parce que je ne veux que ce que veut le bon Dieu, tout pour son amour. » Le 8 juillet au soir, profitant d'une trêve, on transporte Thérèse à l'infirmerie. face à la fameuse statue de la Vierge du Sourire qu'elle avait apportée avec elle, et le communiqué du lendemain se fait plus rassurant. C'est écrit de la main de Marie Guérin. Si tu voyais notre chère petite malade, tu ne pourrais t'empêcher de rire. Il faut toujours qu'elle dise quelque chose d'amusant. Depuis qu'elle croit mourir, elle est gaie comme un pinson. Il y a des moments où l'on paierait sa place pour être auprès d'elle. Alors Thérèse, l'enfant Jésus, ne meurt pas pour autant insensible à l'émoi des séparations humaines. Rien pour elle de ce que l'on appelle le stoïcisme. Elle est pas stoïque. Elle garde jusqu'au bout, cependant, une transparence de cristal. Ou pour mieux dire, une espèce de simplicité d'enfant qui la fait rester si ouverte, si proche de nous, si naturelle, à l'heure même, ou aborde au plus haut cime de la sainteté. Elle se dirige vers la sainteté, elle y arrive, elle y sera. Et Thérèse de l'Enfant Jésus va laisser ce souvenir de la plus grande sainte du XXe siècle, et nous allons assister à ses derniers moments maintenant, tels que rapportés par Marie Guérin. C'était un extrait de la sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré, compositeur qui a composé justement au moment de la vie de Marie Guérin, de Thérèse Enfant Jésus. Il est mort en 1924, près de 80 ans. Dans une lettre adressée le 20 juillet à sa cousine Céline Maudelon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle témoigne avec une bien belle lucidité puis beaucoup d'originalité des vertus de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Elle écrit « Ce n'est pas une sainteté extraordinaire ?» Ce n'est pas un amour de pénitence extraordinaire, non, c'est l'amour du bon Dieu. Les gens du monde peuvent imiter sa sainteté, car elle ne s'est étudiée qu'à tout faire par amour et accepter toutes les petites contrariétés, tous les petits sacrifices qui arrivent à chaque instant, comme venant de la main du bon Dieu. Elle voit le bon Dieu en tout et fait toutes ses actions le plus parfaitement possible. Toujours le devoir avant tout. Et le plaisir, elle savait le sanctifier tout en le goûtant et en l'offrant au bon Dieu. Hein? Elle offre le plaisir au bon Dieu. Réduite à un état proche de l'agonie, Sainte Thérèse, enfant Jésus, survivait par un véritable miracle. En cette nuit, de foi demeurait toujours viva son espérance. Une espérance invincible. Les raffinements de la souffrance physique, le brouillard glacial du doute, un doute obsédant qui l'envahit, ça n'entrave pas son épanouissement moral. C'est le prodige, ça. Oui, c'est le prodige de la vertu de les dominer avec le sourire. Et cette vertu, c'est l'union à Dieu. C'est Dieu qui agit lentement, doucement, qui transforme le cœur et l'âme. Et le 11 septembre, elle adresse à Sœur Marie de l'Eucharistie cet appel pressant, ce rappel à l'ordre. Parce qu'elle trouve que Marie de l'Eucharistie a besoin de faire encore du progrès. Il faudrait que vous deveniez bien douce. Jamais de paroles dures, de ton dur. Ne prenez jamais un air dur. Soyez toujours douce. Ainsi, hier, vous avez fait de la peine à Sœur X. Quelques instants après, une sœur lui en a fait aussi. Qu'est-il arrivé? Elle a pleuré. Eh bien, si vous ne l'aviez pas traitée durement, elle aurait mieux accepté la seconde peine, laquelle aurait passé inaperçue. Mais deux peines s'y rapprochées l'ont mise dans un état de tristesse bien grande, tandis que si vous aviez été douce, rien ne serait arrivé. Alors jusqu'au bout, Sainte Thérèse de Lisieux va garder cette maîtrise étonnante d'elle-même, et jamais elle ne va tomber dans l'égocentrisme habituel aux malades. Elle va rester le guetteur. Oui, le guetteur à l'affût des défaillances de ses novices, c'est toujours ses novices, et Sœur Marie de l'Eucharistie va bénéficier entre toutes de cette expérience. Parce que la jeune professe suit par le menu la terrible agonie de sa cousine. Elle en rapporte le récit à la grille du parloir où ses parents viennent chercher les nouvelles du jour. Parlant de la mort imminente de sa nièce, Madame Guérin déclare d'ailleurs avec une préscience qui fait honneur à son jugement, « Cette éventualité qui nous attriste est l'aurore d'un triomphe. » Et le jeudi 30 septembre, à 19h15, Thérèse de l'Enfant Jésus rendait son âme à Dieu, dans un dernier cri, « Je vous aime !» et suivi d'un long moment d'extase. Le lundi 4 octobre 1897, en la fête de François d'Assise, un cortège réduit, où l'on remarquait plusieurs prêtres, a conduit au cimetière la dépouille de Thérèse de Lisieux. Monsieur Guérin, son oncle, retenu par la maladie, a eu la douleur de ne pas pouvoir assister à la cérémonie, mais c'est lui, homme riche, Du moins qu'il avait préparé à sa nièce sa dernière demeure, parce que peu de temps auparavant, il avait fait l'achat, au cimetière de Lisieux, d'un vaste terrain dont il s'était réservé une partie, et le reste était destiné aux tombes des Carmélites, dont la concession ancienne ne comportait plus de place. Il n'y avait plus de place vacante. Et c'est là que les foules se sont portées de plus en plus denses pour prier Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, avant de la ramener au monastère, dans une translation triomphale le 26 mars 1923, à l'occasion de sa béatification. Sœur Marie de l'Eucharistie devait garder de sa cousine un souvenir très important. Elle recevait en cadeau de fête le 15 août 1898 un des linges sur lesquels Mère Agnès avait recueilli des larmes de Sainte-Thérèse qui, à certains moments, pleurait. Et le 19 avril 1902, Mère Agnès de Jésus succède comme prieure à Mère Marie Gonzague. Et là, Sœur Marie, qui vouait la cousine qu'elle aimait tellement, sa cousine qu'elle aimait tellement, un attachement presque passionné, ben, elle a tressailli de joie cette nouvelle, évidemment, hein, puis les défaillances de sa santé se sont aggravées quand même. Mais ça augmentait cet attachement pour Mère Agnès. Et dès 1899, elle se sent hors d'état de suivre de façon très observante la règle austère du Carmel. Elle souffre de se sentir incapable et inutile. Elle s'accuse d'être devenue un poids mort pour la communauté. D'année en année, bien, les crises se font plus aiguës, plus menaçantes. Alors Marie Guérin, malade, garde son sang-froid. À l'école de la douleur, elle se dépouille du romantisme. Et ce romantisme facile, hein, avec lequel les prédicateurs de l'époque, puis les auteurs spirituels, et même encore aujourd'hui, parfois trop souvent, parlent du mystère de la croix de façon... c'est imbuvable. Hein. Mais l'expérience donne du poids aux réflexions de Marie Guérin. Elle écrit « Je ne suis pas une âme à désirer la souffrance, non, mais à l'accepter lorsqu'elle arrive... » et à m'en réjouir pour la gloire du bon Dieu. Elle garde l'amour de Dieu. À la fin de juillet 1903, il y a une toux sèche, rebelle, à tout traitement. Ça dénonce le réveil agressif là, du bacille qui sommeille en elle depuis la grippe qu'elle avait contractée 10 ans plus tôt. C'est une tuberculose qui va prolonger 21 mois durant son travail, avec des alternatives d'amélioration, puis des crises qui se multiplient pour cette pauvre jeune religieuse. Mais elle accepte, elle accepte. Elle avait foi en la science des docteurs, mais ça lui font payer cher. Mais elle a une endurance exemplaire. Mais le dénouement a lieu le 14 avril 1905, à 10h15. C'était l'anniversaire, il y a, pour nous, 40 minutes. Et sœur Marie de l'Eucharistie, âgée de 35 ans et 7 mois, rejoint sa sœur, sa cousine Thérèse. Elle avait toujours éprouvé une répulsion instinctive devant le mystère de la mort. Elle avait supplié sa Thérèse de l'aider à franchir sans trouble ce grand passage. Elle est exaucée au-dessus, au-delà de toutes ses espérances. On dit que son calme, sa sérénité ont frappé les assistantes au point que 9 ans plus tard, un des témoins, Mère Isabelle du Sacré-Cœur, en parlait encore avec attendrissement en disant « Quand on a vu mourir sœur Marie de l'Eucharistie, on ne peut plus avoir peur de la mort. » Pour l'instant décisif qui approchait, et plus ça approchait, plus ses aspirations se faisaient véhémentes. Marie de l'Eucharistie dit « Je ne crains pas de mourir. Oh, quelle paix. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Il donne toujours la force, bon Dieu. Oh, que je voudrais bien mourir d'amour, d'amour pour le bon Dieu. » Et son désir a été comblé. Elle a expiré, comme Thérèse, dans une dernière prière, « Mon Jésus, je vous aime. » Elle avait vu mourir Thérèse. C'est finalement l'élève qui rejoint au ciel celle qui a été sa maîtresse en sainteté. Chère Marie Guérin, chère sœur Marie de l'Eucharistie, donnez-nous ce goût, justement, de l'Eucharistie, et surtout d'imiter Thérèse de l'Enfant Jésus, de comprendre sa petite voix d'amour, que c'est l'amour qui sauve. C'est en aimant Dieu et en répondant à son amour qu'on est transformé. Faites que nous comprenions ça. Faites que nous comprenions ça. Comme il est dit dans l'Évangile aujourd'hui, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et c'est Jésus qui répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et quand on croit en Jésus, on croit en l'amour. L'amour profond, total, sincère, concret, absolu.